Radio Campus Bruxelles 92.1.
La Constelación.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Alors, vous allez venir vous réchauffer avec nous sur les planches où on expérimente plein de choses, la joie, la rage, plein d'émotions. On va aller notamment du côté de Saint-Josse pour le Toc Toc Noc Festival, un festival qui a fait le pari cette année d'investir la ville. Et donc, c'est le KVS qui organise ça et qui se balade un petit peu dans la ville et après Laeken qui se pose à Saint-Josse. Et puis, on a rendez-vous avec Nurten par téléphone pour nous parler du testament à Beaux-Arts. On rejoindra aussi Elisabeth qui a vu les trois grandes femmes au théâtre Le Public. Et puis on fera aussi une petite annonce d'une pièce qui s'annonce assez puissante qui s'appelle Scheisheimer, souvenir dessiné d'une guerre de Konrad Tinel au théâtre Les Tanneurs. Mais donc on commence par ce fameux Toc Toc Noc Festival à Saint-Josse. Alors le KVS cette année a décidé dans ses murs de ne reprendre que des pièces de son répertoire et pour le volet création de se délocaliser un petit peu partout dans la capitale. Et donc ça a commencé à la Cité Modèle de Laeken au mois de, si je me souviens bien, septembre, octobre, par là à la rentrée. Et maintenant l'équipe s'installe à Saint-Josse. C'est un projet coordonné par Willy Thomas qui fait appel à des artistes qui soit sont habitants de Saint-Josse, soit se sont installés dans la commune pour rencontrer les habitants. Et l'idée, c'est vraiment de placer le théâtre au plus près des habitants, parce qu'on reproche très souvent au théâtre d'être un petit peu élitiste et de se retrancher derrière ses murs, de ne s'adresser qu'à un certain public, hein, une classe moyenne supérieure. Alors cette fois-ci, avec Toc Toc Noc, on va vraiment à la rencontre des habitants. Alors il y a plein de belles pièces, de beaux projets présentés dans ce Toc Toc Noc Festival, dont Ten Hood, Mon Royaume, de Romain David. Alors, c'est très intéressant. Romain David, d'abord, il faut dire que c'est un des membres du Raoul Collectif qui a fait sensation la saison dernière et qui continue de tourner avec Le Signal du Promeneur, notamment au National, mais un petit peu partout en Belgique. Cette fois-ci, il délaisse le collectif pour travailler avec deux jeunes maghrébins qu'il a rencontrés en 2010 déjà à travers un atelier dans une maison de jeunes. Et ces deux jeunes-là, il les fait rencontrer une petite dame, une petite mamie de 81 ans qui habite elle aussi à Saint-Josse. Et alors, c'est les deux visions d'une même commune qui vont s'affronter à travers ces trois personnages qui, chacun à leur manière, se sent un petit peu exclu de ce territoire. Alors, c'est très intéressant de confronter ces deux visions-là. Alors, évidemment, c'est un projet d'un point de vue artistique assez fragile, puisque ce ne sont pas du tout des comédiens, hein, même si les deux jeunes ados sont absolument formidables. Il y en a un qui, à l'évidence, est un showman né. Alors ça crée une énergie intéressante, une force dans cette pièce. Voilà, ces trois personnages racontent leur commune. En tout cas, les deux jeunes racontent un petit peu comment ils avaient l'habitude de se retrouver tous dans un local que leur avait laissé la commune. Un local qui, en fait, leur avait été laissé parce qu'il était dans un état d'insalubrité avancée, qu'il allait être détruit. Alors on s'est dit, pourquoi pas laisser les jeunes investir, c'est déjà gai. Et malgré tout, malgré l'humidité, malgré les champignons, ils se sont mis à récurer ce local. Et voilà, et une vie est née dans ce local, en connexion avec les voisins. Donc, c'était un local et une action sociale qui faisait du sens. Il y avait d'ailleurs des éducateurs qui étaient là pour encadrer les jeunes, qui faisaient plein de projets avec eux. Et puis, un jour, la commune a essayé de influencer le travail des éducateurs et d'orienter leur travail non pas de l'accompagnement des jeunes, mais vers plutôt un rôle plus sécuritaire, où on leur a demandé de faire des rapports sur ces jeunes, de contrôler les possibles incivilités, en gros de jouer aux flics.
Oui, défliquer, voilà. C'est vraiment ça.
Et les éducateurs ont évidemment refusé de jouer le jeu, et on a donc fermé ce local. Et pour les jeunes, c'était une catastrophe, puisque pour beaucoup, c'est un moyen de trouver quelque chose à faire, plutôt que d'aller faire des conneries dans la rue et d'aller péter les rétroviseurs et faire les 400 coups. Et donc, c'est, voilà, on voit à travers cette histoire l'incohérence de certaines actions communales.
Comment le théâtre est arrivé alors, après cette histoire ?
Eh bien, le théâtre se retrouve dans la manière dont Romain David les a dirigés pour raconter leur histoire et en faire quelque chose de très intéressant. Donc, comme je le disais, c'est confronté à la vision de cette Joséphine de 81 ans qui raconte son Saint-Josse à elle. Elle habitait d'abord dans le quartier des Bas-Fonds, et puis elle explique qu'on a rasé ce quartier pour construire la cité administrative, et puis elle est arrivée à Saint-Josse, et puis elle raconte qu'aujourd'hui elle n'ose plus sortir parce qu'elle a peur de se faire braquer, voler son sac, etc. Et donc voilà, il joue très fort sur cette rencontre entre ces trois-là. Alors, à lire ça, on peut se dire, oh, ça va être super gnangnan. Et finalement, il y a beaucoup d'ironie parce que eux-mêmes se moquent de cette démarche, entre guillemets, socioculturelle pour parler de la rencontre entre les jeunes et les vieux dans une commune. Et se moquent de ça sur scène. Donc, ça donne lieu à des situations assez cocasses où les deux jeunes apprennent à la petite vieille à se défendre quand on essaie de lui voler son sac, et eux-mêmes se mettent à jouer cette petite vieille. Enfin, il y a plein de petits moments très, très chouettes, mais surtout, c'est la sincérité de la démarche qui
transparaît,
séduit,
oui.
En fait. Et ça reste du théâtre, parce qu'il y a plein de... La mise en scène est assez maligne. Par exemple, au départ, ils sont tous les trois dans leur petit carré de lumière, et puis après, ils vont se retrouver dans ce même carré qui va peu à peu se rétrécir, métaphore de leur territoire à eux, à l'intérieur d'une même commune qui se rétrécit. Et ça soulève plein de questions sur le travail social auprès des habitants d'une commune, et sur les évolutions aussi d'une commune, d'un quartier, les différentes visions, le fait qu'on a plein de préjugés sur l'autre. Donc voilà, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de sincérité, ça soulève plein de questions.
C'est important de rappeler que les théâtres, en tout cas certains théâtres, s'investissent dans les quartiers. On voit ce projet quand même assez ambitieux du KVS qui s'étend vraiment sur toute la saison. On sait que du côté des tanneurs, ça se passe de la même façon. Il y a des projets qui sont menés. On a vu une très très belle chorégraphie, je crois, la saison dernière.
Personne.
Voilà. Et à l'Océan Nord, je crois qu'on s'investit également dans les quartiers. Donc le théâtre sort de ses murs, ou en tout cas ouvre ses portes à tout un chacun et offre sa scène aux habitants du quartier.
Mais ce qui est différent ici, c'est que par rapport aux projets que tu cites qui sont plus ponctuels, ici on s'étale sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et avec plusieurs volets, avec plusieurs artistes, on crée vraiment du lien. Par exemple, pour citer quelques autres projets de ce volet à Saint-Josse, il y a Didier Denec et la Galafronie qui ont investi un ancien café, en essayant de le rouvrir et de redonner vie à cette espèce de café du peuple où il y aura des concerts, où on essaie de susciter la rencontre. Il va y avoir un Voïtsek en turc, par exemple, au Théâtre de la Vie, mais que ceux qui ne parlent pas turc se rassurent, c'est essentiellement visuel. Voilà, il y a des interventions sur le thème de l'hospitalité, il y a des conférences sur le thème de la ville, il y a plein de choses comme ça qui essaient de retisser du lien par le théâtre, où le théâtre renoue un petit peu avec sa fonction première dans la cité, en fait.
Si je ne m'abuse, la première partie qui se déroula à la Keune était plus centrée sur l'architecture aussi de la ville. Ici, on est vraiment plus dans le théâtre, dans ce volet sur Saint-Josse.
Tout à fait. Et Willy Thomas me disait qu'on sent vraiment qu'il y a un engouement croissant pour ce festival. Au début, les gens étaient un petit peu méfiants, avaient du mal à casser leurs habitudes et aller voir un peu plus loin que le KVS. Mais surtout, à Saint-Josse, il y a tellement plus de... de public, tout simplement, que ça rend encore plus fort le contraste avec Laeken, qui était une espèce de d'îlot isolé, froid, marginal.
Difficile à dire. Ce qu'on attend aussi, c'est de voir quel public va aller voir ce genre de choses. Parce que si c'est faire venir le public qui ne va peut-être jamais au théâtre et là sur scène, mais ce serait bien aussi de créer une rencontre entre ces gens d'un même quartier autour de ce projet commun, en tant que spectateur et en tant qu'acteur également. Ça doit être intéressant. Est-ce que, selon toi, tu crois qu'il y a un public hors KVS, on va dire, qui arrive aussi dans ces quartiers pour ces spectacles?
Mais tout à fait. Je crois que c'est là, d'ailleurs, un des buts de ce festival. C'est de non seulement faire se rencontrer les gens dans la ville même, mais en plus, pour le KVS, c'est tout bénéfice, puisque c'est une visibilité autre de ce théâtre qui va à la rencontre des gens. Donc, en effet, à Saint-Josse, en tout cas à la pièce que j'ai vue hier, Ten Hoed Mon Royaume, il y avait notamment la famille des acteurs qui sont sur scène. Et donc, c'est des gens qui vont sans doute pas beaucoup au théâtre dans le reste de l'année et qui soudain s'ouvrent à quelque chose de nouveau, qui vont faire connaissance avec le KVS, qui vont peut-être plus facilement faire le pas plus tard d'aller voir des pièces au KVS.
Ten Hoed Mon Royaume, c'est à voir donc du côté du Théâtre de la Vie, attention, pas au KVS, mais du Théâtre de la Vie à Saint-Josse, et c'est jusqu'au 23 février, mais il y a plein d'autres choses, évidemment, on vous renvoie vers le site www.kvs.be.
Oui, ça dure jusqu'au 3 mars, je crois, le festival. Alors, on va rejoindre maintenant Nurten, qui va nous parler du Testament vu à Paris.
Bonjour Nurten.
Hello, bonjour tout le monde. Eh ben moi, je retiendrai ce que Catherine disait, hein, sincérité de la démarche et ironie du spectacle. Ça va très bien à ce spectacle qui s'appelle donc Testament, et c'est un collectif berlinois qui s'appelle Chichi Pop, LL Pop, on va dire. Donc, c'est trois gonzesses de Berlin qui ont fait du théâtre et qui viennent dans la performance pluridisciplinaire comme on en fait aujourd'hui. Elles sont parties sur le roi Lear de Shakespeare, encore et encore, on en a vu cette année par Cyreuil. Donc vraiment le pitch très court du roi Lear, c'est le roi Lear qui décide de remettre sa couronne au son royaume. Il réunit ses trois filles et il demande à ses trois filles de lui dire combien elles l'aiment. Alors il y a les deux vipères qui dégoulinent de compliments, et la toute dernière, Cordelia, la préférée du roi Lear, lui dit tout simplement qu'elle l'aime comme son rang le veut, comme son rang de fille, ni plus ni moins. Et ça fait un tollé et ça déclenche une guerre. Il y a toujours une guerre chez Shakespeare, guerre de royaume, enfin, des péripéties. Et donc, sur cette base qui questionne l'héritage, l'amour et le patrimoine, finalement, les trois filles, les trois comédiennes berlinoises ont fait testament. Elles ont résumé ça à testament. Alors, l'idée très originale de ce spectacle, c'est qu'elles ont embarqué leur vrai père sur scène. Et c'est ça qui est très intéressant. Trois vieux types, hein, parce qu'elles ont entre 30 et 40 ans, trois vieux types sont sur scène, assis dans des fauteuils un peu royaux, trois écrans, quelques micros et un plateau de conférence où on peut écrire, prendre des notes et arracher les feuilles, où le texte de Shakespeare se retrouve. Et les comédiennes passent du texte au jeu et de leur projet. C'est-à-dire qu'on voit les répétitions, qu'elles expliquent un peu l'idée de leur projet, qu'elles ont demandé à leur père de se questionner sur le patrimoine et l'amour. Et en même temps, de temps en temps, on passe sur le texte de Shakespeare. Alors ça nous donne un texte, une pièce tout à fait loufoque, parce que les filles, on se rend compte qu'elles règlent leur compte avec leur père. Donc elles chargent vraiment sur l'héritage, et parfois ça va très très loin, parce qu'une des filles justement explique à son père qu'elle est célibataire, que lui a fait énormément de babysitter pour sa sœur. Donc si on compte les heures de babysitter à 10 euros l'heure, elle a perdu sur son héritage autant de sommes. Et le père répond, il piche pas, l'amour ça n'a rien à voir avec ce genre de fric. Et donc elles vont très très loin dans ce partage d'héritage. À un moment donné, il y a la question de je suis à Berlin, j'ai un petit appartement, je ne pourrais pas te prendre chez moi. Le père répond à ça, je n'ai pas besoin de toi, je vais être mobile dans un appartement quand je serai vieux. Et donc, il y a plein de règlements de compte qui sont d'époque, avec la crise, la précarité. Elles accusent leurs parents, évidemment, d'être 68ards, d'avoir plein de fric. Et eux, aujourd'hui, n'ont pas un rond. Et donc, on passe comme ça de Shakespeare au partage d'héritage à les questionnements d'aujourd'hui entre familles, hein, entre parents et enfants, et ça devient très drôle. Alors au niveau de la mise en scène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle mélange les époques. On voit des rosaces un peu à l'ancienne. Dans les vidéos, il y a des portraits des pères qui se pointent un peu comme des peintures du 19e, et en même temps, il y a de la musique, des chants d'amour qui sont très, très, très drôles. Donc voilà, c'est un ovni. C'est vraiment un ovni. Pour moi, je l'avais vu à Paris. On était tous un peu ahuris parce que les parents, les pères sont un peu... c'est du théâtre amateur hein, pour les pères. Et ils racontent comment en coulisses, ils n'avaient vraiment pas envie d'aller dans ce spectacle. Ils ne comprenaient pas. D'ailleurs, à un moment donné, les pères y vont et chargent leur fille en leur disant « T'as fait un métier de merde, comédienne, tu joues mal. Et en plus de ça, ton spectacle ici de performance, ça n'a ni queue ni tête. T'aurais mieux fait de faire un job un peu plus sérieux. » Donc chacun se charge mutuellement. Ça vient par petites touches et c'est incisif tout en restant tendre parce que ça se termine par des chants d'amour. Et une fin... avec des corps amassés où on dirait un peu le radeau de la Méduse. Et alors, entre-temps, elles arrivent quand même, faut le faire, à déculoter leur père. Hein. Ils terminent en flip sur scène. On se dit franchement, les pauvres parents embarqués dans cette histoire. Et donc, c'est un drôle de testament. C'est très intergénérationnel, hein. Comme Catherine disait dans l'autre spectacle, avec les vieux et les jeunes, on voit quand même des nouveaux dans les pièces. Les âges se mélanger.
Vous en voulez à votre père, et bien donc on ira voir Testament du côté du Beaux-Arts. Ce sera pour deux représentations, les 22 et 23 février, donc en cette fin de semaine, du côté du Beaux-Arts. C'est le collectif Chichi Pop, hein, c'est bien ça?
Oui, Chichi Pop, et c'est dans le programme de la scène internationale des Beaux-Arts qui a une belle programmation.
Merci Nurten, www.beauxarts.be. On te retrouve la semaine prochaine?
Oui.
Salut. On est de retour dans la conspiration des planches et on se retourne vers le téléphone où Elisabeth nous attend. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Voilà, tu es allée voir pour nous trois grandes femmes de Edouard Albee, l'auteur de Qui a peur de Virginia Woolf, mais à une toute autre époque en fait.
À une toute autre époque parce que bon, on va préciser quand même que c'est un dramaturge américain tout à fait phare parce que c'est quelqu'un qui a 30 ans de carrière à son actif, qui a écrit des pièces qui sont jouées, traduites, etc. de manière absolument continue depuis ce fameux « Qui a peur de Virginia Woolf » qui est une scène de couple magistrale qui, à mon avis, n'a pas pris une ride et qui date de 1961. Et là, on le retrouve avec ce qui est déjà un classique, je dirais, même si c'est une pièce qui date en fait de 1991. Une pièce pour laquelle il a obtenu le prix Pulitzer des auteurs dramatiques en 94. Donc voilà, c'est un peu un monument comme ça, cette pièce-là. On la monte assez souvent. On l'a montée il y a encore quelques années sur nos scènes bruxelloises. Et c'est une pièce pour laquelle il faut, pour jouer trois grandes femmes, eh ben, il vous faut au minimum trois grandes artistes, trois grandes actrices. Et c'est évidemment le pari qu'a fait Véronique Dumont, puisque c'est elle qui met en scène cette version de trois grandes femmes. Et elle a réuni effectivement trois grandes dames de nos scènes. Alors on va les citer quand même tout de suite. Hein. C'est bien sûr Jeanine Godinas, Isabelle Desfossés et Marie-Paul Kums. Alors sur le papier, ben, ça fait une belle brochette d'artistes et voilà. Et sur scène, eh bien, ces promesses sont tenues. Parce que c'est une très très belle partition que nous propose Véronique Dumont.
Quel est le propos de la pièce?
Alors le propos il est très simple et tu parlais tantôt d'abysses quotidiennes, et ben c'est un peu ça aussi puisque on suit les derniers instants d'une nonagénaire donc. On perçoit tout de suite le rôle de composition, puisqu'il y a un des personnages sur scène qui a 92 ans. Et donc, cette vieille dame est atteinte d'un Alzheimer léger, c'est-à-dire qu'elle perd en clair la boule. Et elle a cette agressivité que peuvent avoir certaines personnes en fin de vie, bien, bien malencontreux, ce qui est assez difficile pour son entourage. Alors, son entourage, en l'occurrence, ce sont deux autres femmes. On a sa dame de compagnie qui, elle, est dans la cinquantaine, et une jeune avocate qui débarque un peu là, parce que bah, quand on a un Alzheimer léger et que les enfants ne s'occupent pas de vous, bah, ça flotte un peu au niveau papier. Alors ça, c'est un peu le propos, c'est voir comme ça. C'est une pièce en deux parties, et toute la première partie nous confronte à cet Alzheimer, nous confronte à cette vieillesse, nous confronte à cette vieille dame de 92 ans, installée dans un fauteuil, un bras qui ne tient plus la route, difficile à marcher, pipi, il faut se dépêcher, mais on ne sait plus se dépêcher, enfin des choses comme ça. Et pendant 1h15, on a, non pas un dialogue, mais si on peut dire un trialogue entre ces trois femmes. Ça grince un peu parce que bon, la dame de compagnie, elle a l'habitude, la jeune avocate, elle a un peu moins l'habitude, donc elle n'arrive pas à montrer de la compassion pour cette dame en fin de vie. Et ça nous fait une première partie qui fait 1h15 tout de même, qu'on suit, mais avec quand même un petit sentiment de longueur malgré tout. Et c'est vraiment, je dirais, le seul bémol qu'on peut, la seule chose qu'on peut reprocher à ce spectacle. Par contre, après l'1h15, on va dire consacré à cet Alzheimer et à cette personne en fin de vie, arrive une deuxième partie après un entracte et un changement de décor. Et là, transformation, on garde bien sûr les mêmes comédiennes, et les mêmes comédiennes incarnent trois âges différents de la vieille personne. Donc on a la vieille personne comme elle est maintenant à 92 ans sur le point de partir. On a son âge moyen avec sa dame de compagnie qui a 52 ans et la jeune avocate qui en a 26.
Donc elles reprennent le rôle de cette dame en fait.
Voilà, c'est ça. On se place dans sa psyché, dans ses pensées, etc. Et c'est vraiment le tour de génie d'Albi. C'est à ça qu'on voit que c'est effectivement un grand dramaturge, parce que à ce moment-là, ces trois personnages se répondent l'un l'autre. Et on a la jeune qui dit, mais attends, moi je veux pas qu'il m'arrive ça. Et puis celle du milieu qui dit, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et on a une deuxième partie qui fait 1h, qui est un peu plus enlevée, qui est un ton totalement différent, et qui a ce côté, on va dire, presque plus philosophique que psychologique à ce moment-là, parce que qu'est-ce que c'est une vie, qu'est-ce que c'est une trajectoire de vie, c'est d'avoir des déconvenues. Et la grande différence aussi, c'est les souvenirs qui n'arrivent pas à arrêter parce que la mémoire est entachée par cet Alzheimer. Les souvenirs sont là intacts.
Alors, Elisabeth, oui, c'est parce que juste on est un petit peu pris par le temps, juste te demander, la prestation des comédiennes t'a convaincu?
Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment une magnifique partition. Je dirais que c'est vraiment un spectacle qu'il faut aller voir parce que c'est un jeu d'acteur et que c'est vraiment le meilleur de ce que nos actrices peuvent livrer, et qu'elles sont tout à fait bien dirigées par Véronique Dumont dans un décor qui est aussi surprenant puisqu'il y a un lit absolument là. Et on est en plus, dernière petite précision, dans la salle des voûtes au public, ce qui veut dire qu'on a une proximité et qu'on voit vraiment, qu'on profite vraiment. Donc si vous aimez vraiment le jeu d'acteur, alors il faut vraiment y aller le voir.
Voilà. Merci Elisabeth. Donc trois grandes femmes d'Edouard Albi, grand dialoguiste, grand dramaturge, mise en scène par Véronique Dumont avec Janine Godinas, Isabelle Defossé, Marie-Paul Kums. C'est à voir jusqu'au 6 avril du côté du Théâtre Le Public, www.theatrelepublic.be. À la semaine prochaine, Elisabeth.
À la semaine prochaine.
Et on termine cette émission avec Scheisheimer. C'est un spectacle très attendu du côté des Tanneurs. Ça commence ce soir, ce mercredi soir, je crois. Et Catherine, tu as pu rencontrer Konrad Tinel.
Oui, c'est un spectacle qui va se jouer trois soirs aux Tanneurs. Alors, il faut se précipiter parce que c'est un sujet assez étonnant. C'est Konrad Tinel qui est, encore une fois, on fait dans la vieillesse aujourd'hui, qui a 80 ans et qui, soudain, a eu le besoin de ressortir son passé, son enfance, son histoire, celle d'un fils de sympathisant nazi et frère de soldat SS. Alors c'est pas facile à porter. Lui le dit franchement, la seule chance qu'il a eue, c'est d'être né trop jeune à l'époque. Peut-être que lui aussi, s'il avait eu 10 ans de plus, il aurait eu ce même parcours, puisqu'il avait 6 ans en fait quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Avec une famille plutôt assez flamingante et donc qui pendant cette Seconde Guerre mondiale était plutôt dans le camp des Allemands, qui a donc dû à la libération s'enfuir et se réfugier en Allemagne, où il a vécu sur le trajet des bombardements, et puis quand il est revenu, il a dû affronter à l'école les railleries, évidemment les croix gammées sur son cartable, et puis la moitié de sa famille qui était en prison. Donc voilà, c'est quelque chose de difficile à assumer, mais ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est qu'il le rapporte avec les yeux d'un enfant de 6 ans. Alors il faut dire aussi que c'est un artiste, sculpteur et dessinateur célèbre en France, et qui au départ a ressorti tout ça sous la forme de dessin. Et dans le spectacle, au fil des projections de ses dessins, il raconte comme ça, il improvise presque, puisque ce n'est pas un comédien au départ, c'est plutôt un dessinateur et sculpteur. Donc il le raconte avec des mots très simples, ce qui provoque une perspective intéressante, puisqu'on n'est pas du tout dans la culpabilité, on est juste dans la vision d'un enfant qui, quand on a 5 ans, on s'en fout si c'est la guerre ou pas, on vit juste sa vie d'enfant, et donc il est fasciné par l'arrivée des soldats russes sur leurs petits chevaux des steppes. Et ça dure, je pense, un peu moins d'une heure 15. Et c'est, on est comme ça dans une mouvance depuis quelques temps de spectacles qui parlent de ça, qui parlent de cette Seconde Guerre mondiale et du passé, parfois difficile à assumer, de certaines familles belges dans ce contexte.
Je crois que l'art de Konrad Tinel est en tout cas exprimé également, puisqu'il y a des dessins au brou de noix, il y a l'encre de Chine, je lis, qui sont également exposés sur scène, ou en tout cas qui soutiennent un petit peu les propos de ce comédien d'un soir, on va dire. Konrad Tinel, donc, qui raconte son histoire dans ce Chessheimer, souvenir dessiné d'une guerre, et qui le renvoie évidemment à son art.
Oui.
C'est à voir jusqu'au 23 février du côté du théâtre Lettaner, www.lettaner.be. Donc, dépêchez-vous à réserver parce que je crois que c'est un spectacle qui va vite se remplir. On en arrête là et on a vraiment fait un spectacle sur les vieux. Hein.
Vive les vieux.
Voilà, et qu'ils montent sur scène encore. Merci Catherine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Le podcast de cette émission revient bientôt sur demandezleprogramme.be et toutes les informations sur les spectacles décrits dans cette demi-heure sur notre site www.radiocampus.be. Bonne semaine à tous. Constelación.